Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier ProTelcast spécial NAO de l'année 2023. Nous allons ici donc vous faire un petit bilan de tout ce que nous avons pu négocier avec la direction et donc de tout ce qui a changé dans l'accord temps de travail et salaire au sein de ProTelco. On vous a déjà fait une première communication par écrit, donc vous pouvez la prendre en plus si vous souhaitez pour pouvoir suivre un peu ce dont on va parler. Je suis en compagnie aujourd'hui de Sylvie.
Bonjour Luc, bonjour tout le monde.
De Maher.
Salut tout le monde.
Et de notre grand expert, Stéphane.
Bonjour tout le monde. Expert, je ne sais pas en quoi, mais peut-être.
Expert en tout. Nous allons donc commencer par la partie qui intéresse, je pense, le plus de monde, c'est-à-dire les salaires, avec donc un premier changement au niveau du salaire d'embauche. Salaire d'embauche pour donc les techniciens, qui est fixé maintenant à 1770, en sachant que jusqu'ici, il y avait deux salaires d'embauche possibles pour les techniciens, un à 1750 pour les proxys et un à 1650 pour les IT et les BO. Donc maintenant, tout ce petit monde se retrouve à 1770, comme ça, il n'y a plus de jaloux, et donc ça va faire un sacré rattrapage à ceux qui avaient été embauchés récemment à 1650. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Ah bah, 120 euros d'augmentation d'un coup, c'est pas mal du tout. Donc, et on est largement au-dessus du SMIC actuellement, ce qui n'était pas le cas sur les précédentes embauches. Donc, on va avoir des salariés qui vont prendre, on va dire, 120 euros d'augmentation d'un coup, ce qui est assez étonnant, chose qu'on n'a jamais vue, je pense, chez ProTelco. Donc ça reste une minorité, je pense, mais avoir aussi un salaire d'embauche à 1770, ça va attirer un petit peu plus de monde.
Je pense effectivement, Maher, qu'au niveau des personnels concernés par rapport à 120 euros d'augmentation, ils vont être relativement peu nombreux. On va dire que ça corrige une tare, entre guillemets, dans notre grille de salaire d'embauche. Maintenant, effectivement, il faut relativiser. Pour la majorité des salariés, puisque beaucoup étaient déjà au-dessus de 1770 euros. Donc, ça va concerner surtout les nouveaux entrants et ceux qui avaient été pris récemment, on va dire, en dessous des salaires en dessous du SMIC, pour être clair.
Dans la lignée des augmentations de salaire d'embauche, il y a aussi une forte augmentation sur celui des coordinateurs, qui passe de 2100 euros à 2200 euros. Ce qui était quand même assez nécessaire, parce qu'il y avait assez peu de différence entre le salaire d'embauche des coordinateurs et le salaire des anciens IT, ce qui poussait certains du coup à ne pas forcément vouloir évoluer en poste.
Alors, essentiellement sur les salaires d'embauche, c'est en vue des promotions et surtout des nouvelles embauches qu'il va y avoir par rapport au poste Free Proxy. À savoir que le développement de la branche Free Proxy n'est pas encore terminé et qu'il va y avoir encore certainement de nombreuses promotions et surtout de nouvelles personnes qui viennent de l'extérieur. Donc du coup, pour que les postes soient plus attractifs sur une annonce, je pense qu'il était nécessaire de réévaluer les salaires d'embauche, puisque effectivement, et ça je pense que même si ce n'était pas dit franchement, mais la direction en était consciente, un salaire d'embauche mis sur une annonce inférieure au SMIC, ça ne fait pas rêver, quoi. Donc, c'était essentiellement par rapport à ça que les salaires ont, pas fortement, mais sur 2 ans, fortement augmenté.
Donc, on va passer maintenant aux réelles augmentations pour ceux qui étaient déjà en poste et pas pour les nouveaux qui étaient encore au salaire de base. Donc, l'augmentation, elle se porte en 4 catégories. Donc, ceux qui étaient en dessous des 1770 sont amenés à 1770. Puis, ceux qui sont entre 1710 euros et 1740 auront une augmentation donc de 60 euros. Puis, il y a une autre catégorie entre 1740 et 1890 qui auront une augmentation de 50 euros. Et enfin, une dernière pour tous les salariés au-dessus de 1890 qui auront une augmentation de 40 euros.
Alors, vous vous posez peut-être la question par rapport au seuil. Il faut savoir que devant la diversité des rémunérations qui existent, et quand on choisit des seuils, ça a toujours un impact sur l'effet de seuil, c'est-à-dire qu'une personne peut avoir 60 euros d'augmentation et se retrouver donc au-dessus du salaire d'une personne qui est juste au seuil supérieur. Et donc, les seuils ont été choisis pour impacter un minimum cet effet et de façon à ce que celui qui était au-dessus reste au-dessus de par les montants d'augmentation. On aurait pu faire des augmentations en pourcentage qui auraient solutionné le problème. Le souci, c'est que le mode de calcul aurait été très complexe pour ventiler cette enveloppe sur ces augmentations-là.
Ensuite, pour repasser sur les coordinateurs, donc ceux qui ne sont pas concernés par l'augmentation à 2200 euros du salaire de base, auront eux donc une augmentation individuelle entre 1 et 3% qui seront établies selon un certain nombre de critères et donc décidées avec leur responsable direct.
À savoir que c'est des critères objectifs qui peuvent être vérifiables et opposables. Donc ce n'est pas forcément qu'à la tête du client, même si on peut toujours avoir un doute. Et que vous pouvez demander le détail du critère qui ont déterminé votre augmentation à votre responsable.
En fait, pour être clair sur cette question-là, nous, on n'a aucun visu là-dessus, quoi. C'est vraiment les responsables qui le font en fonction, effectivement, de l'évolution liée au poste, compétences, etc.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 1 à 3% d'augmentation ne concernent que l'encadrement, si vous regardez bien, puisque c'est coordinateur et au-dessus. Donc, ce sont des responsables qui notent des responsables, en gros, pour faire simple.
Donc, il y a quand même des critères d'inéligibilité pour ces augmentations, donc des critères qui font que vous ne serez pas augmenté. C'est un peu compliqué, je vais essayer de vous résumer ça. Si ça reste pas clair, n'hésitez pas à vous reporter de façon au document qu'on vous a fourni. Alors déjà ne sont pas concernés tous les salariés qui ont eu une promotion en cours d'année, ça a toujours été le cas, les gens promus ont déjà une augmentation avec leur promotion, donc ils ne sont pas réaugmentés par la suite. Les salariés qui sont également en cours de sortie des effectifs, qui du coup vont quitter l'entreprise, donc ne sont pas augmentés non plus. Tout ce qui est contrat d'apprentissage, de professionnalisation, et les salariés qui sont rentrés dans l'effectif en cours d'année. Or, les mobilités groupes, les gens qui viennent d'une autre entité d'Iliade, eux, par contre, sont bien augmentés. Après, une fois passés ces critères d'inéligibilité, vous ne pouvez tout de même pas être en dessous du salaire de base de votre fonction. Donc, même si vous êtes arrivé en cours d'année et que vous avez été embauché, par exemple, à 1750, vous passerez au minima à 1770. Donc, il y aura quand même 20 euros d'augmentation, mais donc, vous n'êtes pas concerné par la grille dont on a parlé avant. Pour ce qui est de l'application, donc ces augmentations-là seront réalisées à partir du salaire de ce mois-ci, de juillet, avec une rétroactivité. Alors, la rétroactivité pour les gens qui étaient déjà dans l'entreprise au 1er janvier, eh bien, la rétroactivité se fait jusqu'au 1er janvier. Et ensuite, pour les entrées dans l'effectif en cours d'année, donc là, ça ne concerne uniquement les gens qui sont en mobilité groupe, eux, la rétroactivité se fera à leur date d'entrée en poste. Comme je disais, les nouveaux externes n'étant pas concernés par les augmentations, eux, il n'y a pas de rétroactivité du tout.
Alors, exceptionnellement, par rapport à ce qui était fait habituellement, là, Luc vous a cité toutes les augmentations qu'il va y avoir en fonction des paliers. Il faut souligner que pour la première fois dans les accords, il n'y aura pas de minoration pour les personnes qui auraient eu des avertissements ou des sanctions. Je peux sans trop me tromper dire que c'est la première fois que ça nous arrive et que c'était quelque chose qui était demandé presque systématiquement par Romain à toutes les négociations et qui était systématiquement refusé, puisque aussi bien côté direction que côté salarié, certains trouvaient ça anormal. Il nous a bien été précisé que, au vu de la conjoncture, minorer les augmentations n'étant pas spécialement très élevées, était une certaine façon de les augmenter et que tout le monde puisse avoir, entre guillemets, une augmentation complète par rapport au tableau que Luc vous a cité tout à l'heure. Donc, c'est un plus. Il était important de le souligner et que, bien sûr, nous n'avons pas mis d'opposition à ce que ça soit supprimé.
Et pour revenir sur des choses un peu plus simples, on a augmenté également la prime panier repas et donc également la partie employeur du ticket resto. Donc on l'a augmenté de 50 centimes, ce qui l'amène donc à un total de 5,50 € par jour. Donc c'est une augmentation qui donne à peu près du 10,50 € par mois sur un mois travaillé complètement.
Net.
Net, effectivement, tu as raison de le préciser, Maher, étant donné que toutes les autres augmentations qu'on a données jusqu'ici sont en brut, donc soumises à cotisation, alors que la prime panier, elle, n'est pas soumise à cotisation, donc l'augmentation de cette prime panier va directement dans votre salaire. Et enfin, pour terminer avec la partie salaire, nous avons également obtenu une modification de la part variable des techniciens itinérants, qui va passer donc de 350 € maximum par mois à un maximum de 400 €. Ce sera a priori à compter du 1er septembre et la grille du coup de prime, la nouvelle grille nous sera présentée en CSE en fin de mois de juillet.
Alors sur ce sujet-là, je tenais quand même à préciser, puisque tu dis nous avons obtenu, il faut savoir que nous n'avons rien demandé puisque la part variable n'est pas discutée en réunion. Négociation, on ne discute que sur la part fixe, donc salaire de base, et que c'est un compromis qui nous a été proposé afin de prendre en considération les techniciens itinérants, comme on le souhaitait, qui se sentaient de plus en plus mis de côté vis-à-vis des free proxy, et que leur, entre guillemets, augmentation, puisqu'il reste énormément d'anciens techniciens, ils sont de l'ordre de 360 encore, sur le terrain. Et il faut savoir que nous avions, nous, demandé à la CGT en 2014 d'avoir une réintégration de 50 € dans le salaire de base de la part variable, puisque à l'époque, l'ensemble des techniciens touchait minimum 250 à 300 € par mois. Donc, on avait demandé 300 €, on avait obtenu 350. Et que tous les ans, pour les personnes qui n'avaient pas souhaité, puisqu'à l'époque, il fallait signer un avenant pour bénéficier de cet avantage, puisque nous considérions que c'était un avantage. Tous les ans, nous avions systématiquement demandé à ce que soient contactées les personnes ou qu'il leur soit possible de contacter les RH, de façon à que ceux qui n'avaient pas signé cet avenant puissent le faire. La dernière fois que nous l'avions demandé, c'était l'accord de l'année dernière. Et il s'est avéré que 35 personnes n'ont pas signé cet avenant et donc n'ont pas bénéficié de 50 € réintégrés dans leur salaire de base. Et que malheureusement, cette année, la direction a formellement refusé de proposer à ses salariés du fait qu'ils nous faisaient la proposition de repasser les techniciens qui avaient signé l'avenant de 350 à 400 €. Et donc, du coup, les 35 techniciens qui n'ont pas signé cet avenant n'auront pas ces 50 € de réintégrer. Ils ne passeront pas à 450 €. Donc, ça veut dire que, pour que les choses soient très claires par rapport à cette décision, elle nous a été proposée par la direction. On ne se voyait pas la refuser pour les 360 techniciens qui pouvaient en bénéficier. Et que, malheureusement, les 35 techniciens qui n'avait pas signé, on n'a rien pu faire de plus, puisque c'était soit à prendre ou à laisser, qu'il n'y avait pas de possibilité de les intégrer pour leur faire bénéficier des 50 €. Après, il faut rappeler qu'ils avaient 9 ans pour signer l'avenant, ce qu'ils n'avaient pas fait. Donc voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais rajouter pour être bien précis sur le sujet.
Il faut bien comprendre que du coup, ça faisait effectivement pas partie de nos demandes initiales, comme le rappelait Stéphane, mais c'est quelque chose quand même pour laquelle la direction a fait un effort supplémentaire, étant donné qu'ils nous ont proposé une augmentation de l'enveloppe initialement prévue, spécifiquement pour cette mesure-là. Donc ça veut dire qu'ils estiment qu'ils vont réellement donner plus d'argent aux techniciens, et que c'est pas juste 50 € en plus d'un point de vue théorique, mais qui ne serait pas atteignable dans les faits. A priori, ils considèrent que ça va réellement leur coûter de l'argent en plus, donc c'est vraiment un effort en plus fait pour la rémunération des IT.
Alors, on n'a pas les détails et tout ça, mais ça s'accompagne aussi d'une refonte du calcul des parts variables de salaire des techniciens itinérants qui nous sera présentée dans le prochain CSE. Donc, on pourra vous en dire un peu plus après le 28 juillet, puisqu'elle nous sera présentée à cette date, si tout se passe bien. Et donc, du coup, on pourra vous dire si à travail équivalent, vous allez gagner plus ou pas, puisque par définition, c'est un petit peu ce que nous avons compris, mais on peut très mal comprendre, donc on attend d'avoir les écrits pour pouvoir vous donner des détails.
Disons qu'on n'a pas eu beaucoup d'explications, même si on a essayé d'en avoir plus. Donc effectivement, on sera ça le 28 juillet. Et donc, il ne faudra pas hésiter aussi à venir vers nous si ça posait des problèmes au quotidien. Et je voulais juste rajouter sur le fait de cette prime qui était, enfin, cette part variable, pardon Stéphane, qui a été augmentée de 50 euros. C'est vrai qu'on ne l'a pas demandé. On avait simplement demandé à ce qu'il y ait un effort supplémentaire de fait au niveau des IT, parce que voilà, ça nous paraissait pas très très équitable par rapport au reste des salariés de Protelco. Et on a obtenu quand même, si je ne me trompe pas, 10 euros bruts de plus pour les anciens IT. Et puis, ils nous ont proposé effectivement ces 50 euros supplémentaires au niveau de la part variable. Et voilà, même si c'est pas notre truc, on pensait que ça pouvait apporter un plus au niveau des techniciens actuellement.
Bah, disons que c'est une réponse surtout à la demande que tu avais faite, Sylvie, par rapport à la prise en compte des techniciens itinérants, de ce que j'expliquais tout à l'heure. Et ça permettait en fait de mieux intégrer les techniciens itinérants, donc surtout les anciens, dans l'avenir de Protelco, les free proxy, et d'arrêter de faire cette différence. Donc c'est une solution qui nous a été portée, nous attendons la suite, c'est-à-dire de reconnaître qu'à travail égal, la part variable du salaire doit être égale. Donc du coup, on verra ça lors du prochain CSE.
C'est clair en fait qu'on a bien signalé le malaise des techniciens, qu'ils soient rattachés au free proxy ou pas. Et que même s'ils ne reconnaissent pas ce malaise, ils l'ont moins entendu et je pense qu'ils ont fait un effort dans ce sens-là. Après, à suivre au niveau la grille de primes qu'ils vont nous présenter le 28 juillet.
Bien, maintenant que nous avons parlé pognon, on peut parler du reste.
Qui est aussi important que le pognon.
Oui, et puis qui finalement n'est quand même pas très éloigné, il y a toujours un lien avec.
Ah, ce qui est sûr, Luc, c'est que pendant la négociation, on nous a tout transposé en jours et tout ça en pognon. Ouais. Donc ça a bien un lien.
Tout coûte de l'argent, hein. On l'a bien compris.
Puisqu'on nous a même ressorti que la mutuelle où ils prenaient en charge 55% de mémoire, ça représentait quand même de l'argent aussi, quoi. On nous l'a sorti quand même.
Oui, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Alors, donc, pour la partie temps de travail, déjà, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été regarder l'accord, mais il y avait un énorme bloc au tout début qui regroupait toutes les horaires possibles chez Protelco. Et donc, tout horaire qui n'était pas référencé dans ce bloc n'était pas possible. C'était un problème parce que ça manquait de finesse dans la gestion des proxys, ça arrangeait personne, des fois on avait besoin de choses plus fines. Et on n'en avait pas la possibilité. Donc, on a obtenu de supprimer cet énorme bloc. Et maintenant, au lieu de faire des horaires très cadrés, on a une borne de départ, c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer avant 8h, et une borne de fin, on ne peut pas finir après 22h15, ce qui concerne d'ailleurs exclusivement les BO. Donc, ça va nous donner beaucoup plus de flexibilité au niveau des horaires et de pouvoir être plus proche de la production. Après voilà, vous inquiétez pas non plus, nous on va essayer de rester très vigilant sur ce qui est fait avec ce nouvel accord, qu'il n'y ait pas non plus de dérive qui en résulte. Le but est vraiment voilà, de permettre à tout le monde d'avoir des horaires qui soient plus flexibles sur par rapport à la production, pour potentiellement en avoir moins de salariés qui finissent à 21h, et voilà, pouvoir un peu mieux gérer entre vie sociale et vie professionnelle. D'ailleurs, du coup, dans cet ordre d'idées-là, pour toujours sur les plannings, on a fait également évoluer le délai de prévenance, donc c'est-à-dire le délai pendant lequel on peut changer vos horaires, de 7 à 10 jours. Donc, c'est-à-dire que maintenant, pour modifier vos horaires sans votre accord, votre responsable doit les modifier 10 jours avant l'application de ces nouveaux horaires.
Alors, je mettrai une petite parenthèse sur le 10 jours, puisqu'avec Sylvie, on s'est posé la question et on a été chercher l'information. Il y a bien écrit 10 jours francs. Mais comme personne ne sait à peu près la définition de 10 jours francs, moi, je vous invite à aller la voir, puisque ça peut faire beaucoup plus que 10 jours.
Oui, si tu as un férié, en fait, ça peut te rajouter une journée en fait, de délai.
Pour compléter ce que disait Stéphane, voici un petit exemple qui peut vous aider à un peu mieux comprendre la façon dont on calcule les jours francs. Imaginons que nous sommes le jeudi 14 décembre 2023 et que votre responsable veut mettre en place un changement au niveau de vos horaires. Déjà, dans ce délai donc de 10 jours francs, on ne tient pas compte du jour sur lequel la décision est prise. Le délai ne commence qu'à partir du lendemain, donc à partir du vendredi 15. Si on compte 10 jours à partir de là, on devrait arriver sur le dimanche 24. Sauf que non, un délai dans le jour franc ne peut pas s'arrêter sur un dimanche. Donc ça repousse au lundi 25. Sauf que non plus, parce que c'est un jour férié, donc le délai en jour franc ne peut s'arrêter sur un férié. Donc ça repousse au 26. Et là, si vous habitez en Alsace ou en Moselle, eh ben le 26 est férié aussi, donc ça repousse au 27. Donc si votre responsable s'y prend le 14 décembre pour vous dire « vous allez travailler le mardi 26 » et que vous habitez en Moselle, eh bien vous pouvez lui dire « non, je ne suis pas disponible » et il ne pourra pas vous forcer à travailler.
Ou du moins à modifier vos horaires, initialement prévus.
Exactement. J'espère pour vous que c'était clair, parce que pour moi, ça a été compliqué à l'être.
Non mais t'inquiète, ils sont déjà tous partis là.
Exactement. Tant qu'on est sur les fériés, nous avions jusqu'à aujourd'hui la possibilité donc pour nos fériés de les prendre soit en rémunération supplémentaire, soit en jour de repos, mais ce jour de repos devait être fixé dans les 6 jours qui suivent le férié réalisé. On a réussi à augmenter un peu ce délai, parce que 6 jours c'était quand même très compliqué en termes de planification, et donc on a obtenu que maintenant le jour férié peut être posé dans les 30 jours qui suivent. Parlons maintenant de congés payés. Vous le savez sûrement, depuis des années, il existait un jour de congés payés supplémentaires en fonction de l'ancienneté qui permettait donc de ne pas travailler le jour de solidarité. Le jour de solidarité était alors offert par l'entreprise. Historiquement, il a été au départ fixé à 10 ans. Il a progressivement réduit en ancienneté avec les années jusqu'à arriver à 4 ans l'année dernière. Cette année, on fait une petite marche arrière, on revient sur 5 ans d'ancienneté, comme c'était le cas il y a 2 ans donc, mais pour une raison précise, c'est qu'un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé à tous les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté, qui celui-là, du coup, ce jour de congé peut être placé n'importe où, il n'est pas attribué à une journée en particulier.
Donc, pour résumer, on a un premier jour qui est dévolu pour la journée de solidarité à partir de 5 ans d'ancienneté. Particularité de cette année, c'est qu'on a fait un effet rétroactif. Cette ancienneté de 5 ans est obtenue pour tous ceux qui l'ont au 31-5-2023. Et le deuxième jour est accordé à partir de 10 ans d'ancienneté, toujours avec une ancienneté obtenue au 31-5-2023. Et il est utilisable comme un jour de congé normal qui permet de le placer quand on veut.
Et alors, revenons un peu sur la partie rotation d'horaire, parce que intervient maintenant un nouvel outil qui peut avoir son utilité, qui ne concernera pas tout le monde, bien au contraire, et ce n'est pas le but, ce n'est pas non plus ce qui est voulu par la direction. C'est la possibilité de faire 35 heures sur 4 jours. Alors ça existait déjà dans l'accord précédent, mais c'était limité à des utilisations exceptionnelles. Là, on ancre dans le dur qu'il est possible de faire 35 heures sur 4 jours de manière pérenne, mais seulement sur décision du responsable. Tout le monde ne pourra pas en bénéficier. Et donc le but, ça va être de favoriser certaines organisations, par exemple en proposant à quelqu'un de faire de travailler tous les week-ends, mais du coup de ne travailler que 4 jours par semaine en ayant 3 jours de repos, qui va permettre à côté de libérer par exemple les dimanches pour les autres membres de l'équipe. C'est à voir en organisation de toute façon dans chaque équipe, il faut que ça convienne à tout le monde. Et là encore, on va rester vigilant pour qu'il n'y ait pas de dérive avec ce nouvel outil.
À savoir que tu parles d'outil, mais c'est quand même un horaire qui a été validé dans l'accord. Qu'il faut préciser que c'est à la décision des responsables, donc de la direction, que nous avons demandé à ce que les personnes intéressées par des horaires comme cela se manifestent auprès de leurs responsables pour qu'ils soient les premiers, entre guillemets, contactés pour que ça soit appliqué, mais que rien n'empêche avec l'accord que nous avons signé que l'employeur l'impose à un salarié.
Il faut préciser aussi qu'un salarié peut aussi, d'une façon exceptionnelle, demander à travailler 4 jours s'il en a sur 35 heures, s'il en a besoin.
Ben non. Oui, comme tu dis Sylvie, de toute façon la partie exceptionnelle qui existait déjà, elle n'a pas été supprimée, donc vous pouvez toujours demander pour une semaine définie où vous avez un besoin particulier de faire vos 35 heures sur 4 jours, et ça peut toujours être accepté, ça, il n'y a aucun problème.
Il y a quand même deux grandes contraintes, c'est que cet exceptionnel doit être prévu au minimum un mois avant, et que vous n'aurez une réponse que 10 jours avant la date à laquelle vous souhaitez faire ces 35 heures sur 4 jours. Donc, c'est deux contraintes qui sont assez importantes. La seule exception, entre guillemets, qui supprime ces délais, c'est une demande qui est faite aux responsables quand c'est lié à une grève de transport collectif ou à des intempéries. Donc, des cas vraiment très rares, entre guillemets, surtout pour les grèves. Un petit complément quand même sur les délais. Il faut savoir que quelqu'un qui a demandé 35 heures sur 4 jours, de façon exceptionnelle, ne pourra pas poser une journée de CP sur les 4 jours sur lesquels il travaille. C'est important de le préciser parce que ça pourrait donner des idées à certains d'essayer de planifier 3 jours de travail au lieu de 5.
Et alors, pour la prochaine partie, je vais laisser monsieur l'expert vous expliquer parce que moi, j'ai beau retourner dans tous les sens, j'ai du mal à l'expliquer n'étant pas itinérant moi-même.
Alors, le point épineux pour Luc et qu'il est, je pense, pour de nombreux responsables encore et de beaucoup de techniciens, c'est les temps de déplacement en dehors des heures de travail. On va pas refaire toute l'histoire. Il faut savoir que nous avons obtenu quelque chose qui, pour moi, était essentiel depuis le début. C'est que nous avions accordé, entre guillemets, un principe de 80 minutes de dépassement entre son domicile et son premier rendez-vous et son dernier rendez-vous et son domicile, de façon à, entre guillemets, compenser le fait d'avoir un remisage à domicile. Il faut savoir que les temps qui étaient calculés par certains de ces fameuses minutes étaient calculés sur des théories de déplacement qui n'avaient rien à voir avec l'horaire réel auquel s'effectuaient ces déplacements. Donc, nous avons modifié la phrase de l'accord en mettant noir sur blanc que le temps calculé est sur la base des heures de départ pour la première intervention et de fin de journée, et ce, hors contrainte de circulation exceptionnelle. Concrètement, vous avez prendre Google Maps, vous avez un rendez-vous à 8 heures. À 8 heures, il vous faut entre 50 et 60 minutes pour faire le trajet. Eh bien, seront pris en compte 55 minutes de trajet. Si vous avez exceptionnellement un accident au moment où vous faites votre trajet, ben vous prévenez votre supervision qu'il y a un accident et que vous ne pouvez plus rouler, mais ce n'est pas pris en compte dans le calcul du temps, par conséquent, des plages aménagement qui devront être mises quand ce temps de déplacement dépasse les 80 minutes. Pour faire simple, le temps, c'est Google Maps au moment du rendez-vous. Ça dépasse 80 minutes dans votre journée entre l'aller le matin et le retour le soir. Tout le reste doit rentrer dans votre journée de 7 heures de travail. On ne peut pas faire plus clair.
Bon, maintenant que les gros morceaux sont finis, il reste juste un dernier petit point, c'est la partie souplesse à l'embauche et à la débauche, donc qui existait, qui était différente en fonction des services. On a demandé une harmonisation à 10 minutes pour tout le monde, donc ce qui fait que la partie cellulite, donc les TSI, qui étaient à 15 minutes, n'auront plus que 10, mais tous les autres services, tous ceux qui n'avaient rien, notamment les itinérants par exemple, montent à 10 minutes de souplesse à l'embauche et à la débauche. Donc ça veut dire qu'ils peuvent embaucher 10 minutes avant l'heure prévue sur leurs horaires ou 10 minutes après. Ils ont voilà, cette latence-là. Le seul service qui n'est toujours pas concerné, c'est le BOT. Eux, pour le coup, on nous a redit que c'était pas possible de modifier. Donc, ils ont 4 minutes de souplesse. Et il n'est pas possible pour eux de passer sur 10 minutes, étant donné qu'ils sont en équipe qui se relaie sur les mêmes postes. Et si quelqu'un du matin arrive 10 minutes en retard, bah, ça impacte trop l'équipe du soir. Et ça les fait terminer beaucoup trop tard.
Il faut surtout prendre en considération que le plus gros des effectifs actuels, qui sont les techniciens de FreeProxy, n'y avaient pas droit et que maintenant, ils sont bien dans l'accord. Ils seront concernés par les plus ou moins 10 minutes de souplesse.
Oui, moi, je voudrais juste préciser quand même une petite chose. C'est qu'au départ, cette mesure, on l'avait demandé surtout pour les BO. Donc, on est vraiment désolé pour eux parce qu'on a vraiment essayé... Maher, surtout, qui connaît bien la problématique. Ils étaient seuls sur le plateau à avoir 4 minutes... je crois déjà de flexibilité d'arrivée et de départ. Maintenant, ça a été tourné dans tous les sens et a priori, c'est vraiment pas faisable pour eux. Voilà. Je voulais juste faire cette petite précision parce que au départ, c'était vraiment pour eux en plus que cette mesure avait été demandée.
La raison est simple dans le sens où il n'y a pas de shift entre guillemets matin et soir pour les mêmes BO. C'est tous du matin ou tous du soir et que du coup, il ne pouvait pas y avoir de rattrapage le soir. Et donc, du coup, aurait pu être fait 10 minutes sur l'équipe du matin, mais pas sur l'équipe du soir, puisque le soir, ils ne peuvent pas partir après 22h15.
Eh bien, je crois que ça y est, nous avons fait le tour.
Alors, moi, je voudrais rajouter un petit complément, puisque en parallèle de, on va dire, la négociation salaire Protelco, il y a eu une autre négociation qui, à mes yeux, est aussi importante que la négociation salaire, c'est-à-dire... Pour la première fois depuis que Iliad existe, un accord a été négocié au niveau groupe sur l'intéressement. La participation, quant à elle, est déjà planifiée par le Code du travail, donc il n'y a pas de négociation à avoir. C'est écrit et la formule s'impose à tous. Donc, pour l'intéressement, il y avait un risque, plus qu'un risque, puisque c'était quasi certitude, que si nous conservions l'accord actuellement en vigueur, qu'il n'y aurait pas eu de participation en 2024 sur l'année 2023. Donc, il a été décidé de faire deux, trois grands principes, c'est-à-dire le premier, que l'intéressement soit versé de façon égalitaire à tout le personnel du groupe concerné, donc toutes les entités concernées par le périmètre de l'accord, ça représente quand même beaucoup d'entreprises du groupe, et que le montant de cet intéressement soit l'équivalent couplé avec la participation d'environ un salaire médian. Donc le salaire médian tournant aux alentours des 1800 euros. Si nous avons des résultats qui sont égal ou supérieur à l'année N-1, on aura à peu près ça. Si nous avons, entre guillemets, un résultat qui est 5% inférieur, là où on n'aurait rien eu, nous allons toucher quand même quelque chose de l'ordre de 1500 à 1600 euros. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons une enveloppe qui sera calculée non plus par rapport à des résultats, mais par rapport à une masse salariale, donc quel que soit le nombre de personnes qui composent les entités du périmètre de l'accord, ben, ça augmente de façon équitable au niveau du partage, ce qui fait que ça permet de garantir une somme égale à tout le monde. La seule variable qui est appliquée, c'est le taux de présence au cours de l'année de référence. Donc, sont retirées des présences uniquement les arrêts maladie, puisque les accidents de travail, les formations et tout ça de mémoire sont comprises comme du temps de travail. Donc concrètement, c'est un accord plutôt favorable, surtout pour l'année prochaine, puisque le risque c'était zéro. Le fait de ne pas avoir d'intéressement est assez, entre guillemets, réduit, puisqu'il est obligatoire d'avoir un risque de rien avoir dans l'accord, mais il faudrait faire moins de 95% que l'année précédente, ce qui serait, une catastrophe industrielle. Donc du coup, là où on pourrait éventuellement perdre, c'est sur le delta 2025-2026, puisque si les profits augmentent énormément, ben, nous, on sera cadré par rapport au pourcentage de masse salariale qui ont été décidés en fonction des objectifs, ce qui veut dire que concrètement, on a l'assurance de toucher quelque chose d'assez significatif pendant les trois prochaines années et on peut se revoir pour voir comment ça va s'appliquer avant la fin d'année 2024 pour éventuellement modifier ou instaurer des critères supplémentaires. Donc je tenais à préciser quand même ça puisque on est représentatif au niveau du groupe et donc nous avons la CGT participé à cette négociation et pu donner nos avis et donc faire en sorte que on sécurise que tous les salariés du groupe touchent quelque chose qui n'était pas gagné d'avance. Voilà, j'ai fini la petite parenthèse. Vous pouvez reprendre le cours normal de votre réunion.
Merci pour cette petite précision, Stéphane.
Eh bien, maintenant, nous allons vous laisser aller prendre de l'aspirine, parce qu'après tout ça, j'imagine que vous devez avoir un peu mal à la tête.
Bon, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué pour nous de faire un résumé. On commence un petit peu à fatiguer, hein, vous allez nous excuser. En plus, il fait une chaleur épouvantable actuellement, donc on a les cerveaux qui flambent un peu. Mais si on n'a pas été clair, revenez vers nous. Ne vous inquiétez pas, on pourra vous réexpliquer des points qui éventuellement vous auraient échappé. Voilà. Et je voulais aussi faire une petite précision sur le temps de travail. Il y a effectivement une flexibilité qui est quand même importante. Donc on sera bien sûr à surveiller ça. Et n'hésitez pas à venir vers nous s'il y a des problématiques liées à ce point-là en particulier. Voilà. Sinon, pour le reste, on a fait au mieux et pour tous.
Eh bien, comme disait Sylvie, surtout si vous avez besoin de précisions à titre personnel, n'hésitez pas à nous contacter. Le groupe Telegram que nous avons créé peu de temps avant ces négociations va servir à ça. Il y a énormément d'informations déjà présentes. Vous pouvez, entre guillemets, nous consulter en privé pour des choses personnelles. On essaie d'aborder tous les sujets qui peuvent vous concerner. Donc, s'il y a besoin de créer des nouvelles catégories ou des nouveaux groupes, je tiens à ce qu'on soit informé et que nous les créions et qu'on puisse vous répondre clairement par rapport à tout ça. J'en ai créé un récemment ce matin qui concerne les futures élections que nous allons avoir en fin d'année. Et donc, je vous invite tous à venir consulter ce qui a déjà été donné et on se retrouve rapidement. Bonne fin de journée à tous.
Eh bien, merci Stéphane, merci Sylvie pour votre présence et merci Maher, même s'il a dû nous quitter en cours de route. Donc, mais effectivement, on a pu faire un gros point sur ces négociations. Comme le disait Stéphane, si vous avez toujours des questions, des interrogations ou des incompréhensions, on reste disponible, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à début août, on va dire, pour le dernier Protelcast avant les vacances, suite à la réunion du CSE. Bonne journée à tous, au revoir. un commentaire?
Non.